I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
This episode is brought to you by Progressive. Most of you aren't just listening right now. You're driving, cleaning, and even exercising. But what if you could be saving money by switching to Progressive? Drivers who save by switching save nearly $750 on average, and auto customers qualify for an average of 7 discounts. Multitask right now. Quote today at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. National average 12-month savings of $744 by new customers surveyed who saved with Progressive between June 2022 and May 2023. Potential savings will vary. Discounts not available in all states and situations.
Bon matin, mon nom est Jean-Michel Lhomme et vous vous apprêtez à écouter Fais-tu frette, le podcast où les Québécois expliquent le vrai Québec à un Français fraîchement débarqué. Et croyez-moi, il y a du boulot. Vous avez aimé la saison 1, alors vous allez surkiffer la saison 2. Car cette année, en plus de continuer à explorer la société, la culture et plus globalement le quotidien de la vie au Québec, je me fais fort de vous faire aussi découvrir des personnalités d'ici. Après tout, je le dis souvent, je ne suis pas venu ici pour le Québec, je suis venu pour les Québécois. Et franchement, je suis pas déçu, vous ne le serez pas non plus, parce que célébrités ou illustres anonymes, artistes ou entrepreneurs, aidants ou activistes, il y a ici pléthore de gens absolument incroyables. Vous allez voir, elle va être franchement bien cette deuxième saison. Et sinon, quoi de neuf? Bah, pas grand-chose, si ce n'est que depuis quelques mois, il y a une marmotte qui squatte sous le cabanon de mon jardin. Fais-tu frette, saison 2, on ouvre les micros. Bonne émission. Saviez-vous qu'il existe un endroit incroyable qui a successivement été le fond d'une ancienne mer, un gigantesque glacier et le cœur d'une forêt tropicale luxuriante peuplée d'incroyables animaux disparus ? Un endroit qui a vu naître des montagnes encore plus hautes que l'Himalaya. Un endroit où on a même croisé des champignons géants de plus de 8 mètres. Eh bien cet endroit, c'est ici, et c'est le Québec. Et non seulement le Québec n'a pas été découvert par ce cher Jacques Cartier, mais son histoire d'avant ne se limite pas non plus au seul premier peuple. Comme à peu près toutes les terres qui recouvrent notre petite boule bleue, le Québec a lui aussi été formé il y a 4,6 milliards d'années. Une paille. Et aujourd'hui, on va se jaser de préhistoire, les amis. Parce que, à mon grand étonnement, le Québec et ses régions les plus limitrophes, à savoir le Nouveau-Brunswick, le New Jersey ou l'Alabama, tiennent une place à part dans l'histoire de l'humanité. C'est en tout cas ce que j'ai découvert récemment dans le livre de Patrick Couture. Bien qu'étant enseignant, Patrick n'est ni historien, ni paléontologue. Son auditoire quotidien n'est pas composé de conférenciers surdiplômés ou d'étudiants surmotivés, mais bien d'écoliers de 5e et de 6e année du primaire de la Riveraine à Saint-Zotique. La préhistoire du Québec, la grande épopée de nos origines, puisque c'est le livre dont il s'agit, est sortie en format classique en 2019 et a depuis connu une déclinaison en bande dessinée en 6 tomes, afin de le rendre plus accessible encore, notamment auprès des enfants. Et j'avoue pour ma modeste part que je me suis pas mal appuyé sur les BD pour préparer cet épisode aujourd'hui. Salut Patrick.
Salut, comment vas-tu?
Ça va très très bien, et toi?
Ça va extrêmement bien, merci beaucoup. Merci de ton invitation, c'est bien apprécié.
Ah bah franchement, c'est un véritable plaisir. Je pense qu'on va apprendre, J'ai déjà eu la chance d'apprendre pas mal de choses en parcourant tes livres, mais je suis persuadé que ceux qui nous écoutent aujourd'hui vont vraiment apprendre aussi un maximum de choses. Et la première question que j'aimerais te poser, c'est d'où vient cette passion pour la préhistoire?
C'est une question qu'on me demande souvent. Puis j'ai beau fouiller dans mes mémoires, je trouve pas un moment charnière ou un moment vraiment particulier. J'ai l'impression que ça a comme toujours été avec moi tout ça. Un de mes plus anciens souvenirs, c'est d'avoir fait une présentation orale devant mes petits camarades quand j'étais peut-être en quatrième année. Et puis, à cette époque-là, les dinosaures étaient pas aussi bien connus des enfants que c'est le cas aujourd'hui. Puis, j'avais fait une présentation sur le stégosaure. Et je me souviens que mes camarades me regardaient. Tu sais, ils avaient pas été, disons, très sages pendant les autres présentations. Mais pendant la mienne, vraiment, ils me regardaient avec les yeux ronds comme des balles de golf. Ils avaient l'air complètement fascinés par ce que je leur disais. Puis ça a été un moment important pour moi parce que j'ai réalisé que l'intérêt pour la préhistoire, ben, il était pas seulement dans ma tête, là. Il était vraiment beaucoup plus généralisé que ce que j'aurais pu croire auparavant. Donc ça, c'est un moment dont je me souviens, mais j'adorais la préhistoire depuis de nombreuses années déjà à ce moment-là. Donc, comment tout ça a commencé, je pourrais pas vous répondre en toute sincérité. J'ai comme l'impression que ça a toujours été là.
C'est étonnant, moi, je trouve, parce que en tant qu'enseignant, qui plus est avec des enfants relativement jeunes, c'est difficile de faire quelqu'un qui est plus dans la, je veux dire, dans la modernité, dans l'actualité que toi. Voilà, c'est les nouvelles générations sont là, c'est les préoccupations, c'est les expressions nouvelles et ainsi de suite. Et dès que tu lâches ta casquette d'enseignant, tu te projettes, allez, 4,6 milliards d'années en avant. C'est difficile quand même, je trouve. Moi, j'adore l'histoire aussi. Mais j'avoue que j'ai beaucoup de mal à me projeter dans l'histoire avant le XXe siècle. Tout simplement parce que l'histoire du XXe siècle, ça me rappelle mes grands-parents, c'est des gens avec qui j'ai pu parler, c'est des lieux que j'arrive un petit peu à reconnaître. Quand on lit tes livres, il est difficile parfois de reconnaître un petit peu les lieux qu'on fréquente. Et d'ailleurs, ça va être l'objet de la question suivante. Je disais dans mon intro que on allait faire un voyage. Aujourd'hui, on va faire un voyage, mais on va rester, tout au long de cette entrevue, on va rester au Québec. Alors évidemment, ça peut paraître un petit poil contradictoire, tout ça. Sauf qu'en fait, le Québec a vachement voyagé tout au long de la préhistoire.
Oui, effectivement, la dérive des continents nous a transportés d'une position qui était sous les tropiques, donc sous l'équateur, nous a fait traverser l'équateur, puis lentement, pas vite, nous amène sur une trajectoire, nord-ouest vers le pôle Nord, ce qui explique que le Québec d'aujourd'hui est beaucoup plus frigide que ce qui a pu exister par le passé. À une certaine époque, on aurait pu se comparer au Costa Rica actuel, c'est-à-dire un endroit tout à fait tropical, chaud, une seule saison, très humide. Donc, on a vraiment traversé toutes sortes d'étapes dans notre évolution, dans l'évolution de notre territoire, qui fait en sorte que bien que c'est toujours le même sol pourtant, c'est toujours cet endroit-là qui est sous nos pieds, il n'est pas aux mêmes coordonnées géographiques, alors on se retrouve dans des situations qui dépassent l'entendement parfois.
Ouais, tu disais dans un des bouquins que les continents se déplacent à la même vitesse que poussent les ongles.
Ouais, ben ça c'est les plus rapides, c'est les endroits qui se déplacent le plus rapidement.
Ça c'est rapide.
Pardon. Oui, exact. Alors, c'est seulement les endroits qui se déplacent le plus rapidement qui se déplacent à la même vitesse que poussent les ongles, parce que la plupart des autres endroits c'est plus lent que ça. Mais évidemment, dans une vie humaine, ça semble immobile, ça semble complètement même pas digne de mention, mais les humains, notre vie est tellement courte, on est tellement des créatures qui ne voit qu'une minuscule petit moment dans l'histoire de cette planète-là, que pour nous, c'est inconcevable. Mais en réalité, les continents se déplacent quand même assez rapidement. Là, quand on pense qu'on a traversé l'équateur, bon, en quelques millions d'années, ça peut sembler énorme, mais en réalité, dans l'histoire de la planète, c'est pas si long que ça. Les continents se sont entrechoqués ensemble pour former des super continents à plusieurs reprises. On en compte jusqu'à date, là, les chercheurs en ont dénombré jusqu'à 4 ou 5 supercontinents. Donc, c'est comme une énorme valse que dansent les continents entre eux. Ils se rapprochent, ils s'éloignent, ils tourbillonnent, ils rentrent encore en contact un avec l'autre. C'est magnifique de voir ça. Puis évidemment, une vie humaine, c'est insuffisant pour l'apprécier vraiment.
Ah, c'est sûr. Je crois que j'avais vu dans une vidéo, je crois sur YouTube, que l'histoire de l'humanité, si on devait remettre l'histoire de la planète, tout ça en 24 heures, que l'histoire de l'humanité, ça serait seulement 7 secondes.
Exact.
Ouais. Forcément. Et on dit bien de l'humanité, donc on parle pas de notre vie à nous. Si,
non.
Si on n'est même pas capable de le mesurer, si c'est que notre vie à nous, donc c'est complètement dingue. Tu disais, à 4 ou 5 reprises dans l'histoire, dans la préhistoire, les continents se sont regroupés, donc les mêmes terres se sont regroupées pour ne former qu'un seul ou de grands blocs. La dérive des continents continue.
Oui.
Grosso modo, on met notre timer sur quelle heure pour le prochain entrechoquage?
Si je me souviens bien, c'est environ dans 250-300 millions d'années. Donc, présentement, ce qui est en train de se passer, c'est que l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud s'éloignent de l'Europe et de l'Afrique. Donc, les deux se déplacent dans des directions différentes. Mais éventuellement, ce qui semble se produire, c'est qu'il va y avoir un renversement de la situation. Donc, ces continents-là vont reprendre le chemin inverse et vont recommencer à se diriger les uns vers les autres. Ce qui fait qu'on risque d'avoir un autre supercontinent dans à peu près 300 millions d'années, si ma mémoire est bonne.
Ouais, ce sera bon pour le tourisme, ça. On ne sera pas obligé de prendre l'avion et tout, ça sera super. On fera des économies, ce sera bon pour le climat. Une autre petite chose que j'ai vue dans le livre, que je trouve quand même assez intéressante quand on connaît le climat du Québec actuellement, tu parles d'une grande période de glaciation où toute la Terre s'était recouverte de glace. Toute la Terre a un petit territoire près. Alors peu de choses, le Québec, mais c'est quand même assez marrant de se dire aujourd'hui qu'à un moment donné la Terre a été recouverte de glace et le seul endroit au monde où il faisait relativement chaud et on pouvait se taper la bronzette, c'était au Québec.
C'est complètement exact. Fou. Parce qu'à ce moment-là, on était carrément à cheval sur l'équateur, donc on était dans la seule et unique zone qui aurait possiblement pu être libre des glaces. Donc oui, à cette époque-là, effectivement, il faisait plus chaud au Québec que dans le Sahara.
Incroyable, juste incroyable. L'une des raisons pour lesquelles j'ai absolument tenu à t'inviter quand j'ai découvert tes bouquins, parce que je me suis dit, on va pas faire une émission sur la préhistoire en général, c'est pas forcément la thématique de Fétufrette. Sauf que, quand on lit tes livres, on se rend compte que le Québec tient une place vraiment, je trouve une place véritablement à part dans cette histoire. C'est-à-dire que le nombre de fois où tu vas nous dire le plus gros truc a été retrouvé au Québec, le plus ancien a été retrouvé au Québec. Des fois, effectivement, on élargit un petit peu, on va parler du Nouveau-Brunswick, de l'Alabama, du New Jersey, mais ça donne véritablement l'impression qu'ici, il y a une espèce de concentré d'histoire et de préhistoire. Et pourquoi ça donc? Pourquoi au Québec plus qu'ailleurs?
Ben c'est fascinant en fait de voir tout ça, c'est extraordinaire, les gens soupçonnent pas à quel point on est vraiment au cœur de l'action quand il est question de préhistoire. Pourquoi? Ben en fait, c'est pas nécessairement parce que tout s'est produit uniquement ici. Une des raisons pour lesquelles on trouve plein de trucs vraiment intéressants au Québec, c'est que dans la plupart des endroits du monde, les plus anciennes roches qui racontent donc les origines de notre planète puis les origines de la vie sur Terre, ces roches-là ont soit été broyées, détruites, ou encore elles sont enfouies sous des centaines de mètres de sédiments, puis de roches, puis de terre. Donc, elles sont extrêmement difficiles d'accès. Mais au Québec, à cause de la dernière glaciation, le territoire a été complètement raboté par les glaciers. Donc, toutes les couches plus récentes de sol ont été arrachées, ce qui fait que le sol sous nos pieds est très, 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 très ancien. Et c'est pour cette raison-là qu'on retrouve, entre autres, la plus ancienne roche au monde, au Québec, on l'a retrouvée ici. Les plus anciennes traces de vie, on a retrouvé ça au Québec. On a aussi retrouvé au Québec des fossiles de poissons absolument extraordinaires. C'est à Miguachan, en Gaspésie. Ce sont des poissons dont les nageoires ont commencé à s'ossifier, c'est-à-dire que plutôt que d'être des petites nageoires transparentes comme celles qu'on voit sur les poissons actuels, ces poissons-là avaient des nageoires dans lesquelles avaient commencé à se développer des os. Et quand on regarde ces os-là puis qu'on les étudie, on remarque des ressemblances, donc un lien de filiation avec nos os à nous et à ceux de tous les animaux terrestres. On reconnaît les os de la main, on reconnaît les os de l'avant-bras. Donc ça, ce que ça signifie, c'est que ces poissons-là, en d'autres termes, ce sont nos ancêtres à nous et les ancêtres de tous les vertébrés terrestres, c'est-à-dire les girafes, les oiseaux, les crocodiles, les humains, les éléphants. Et ces animaux-là, ça semble être au Québec, qui ont commencé à se développer puis à devenir, à connaître un certain succès puis à quitter lentement pas vite le milieu marin pour venir investir la terre ferme. Donc, on retrouve des choses absolument extraordinaires au Québec. C'est extraordinaire, possiblement même d'ailleurs le plus gros cratère terrestre. Ça reste à être confirmé. Mais on parle d'un cratère gigantesque qui fait pratiquement la moitié du territoire québécois s'il s'avère véritablement être un cratère, parce qu'on parle d'un astroblème tellement ancien qu'il a pratiquement été complètement détruit avec le temps. On pense qu'en fait, les géologues croient que le lac Mistassini, tu sais, qui est un lac un peu en forme de demi-arc, pourrait être qui pourrait avoir cette forme-là parce qu'il serait situé sur le pourtour de ce cratère-là. Mais ça reste à être déterminé, évidemment. Donc, ça, c'est juste pour en nommer quelques-uns, parce que, comme vous avez vu dans les livres, il y en a plusieurs autres. C'est vrai qu'au Québec, souvent, quand les Québécois parlent du Québec, ils vont parler d'un jeune pays qui n'a pas beaucoup d'histoire, mais en réalité, ils se comparent à l'Europe, puis ils parlent de l'histoire humaine. Mais quand on parle de l'histoire de la planète, alors là, vraiment, le Québec n'a rien envie à qui que ce soit. C'est renversant de voir tout ce qui se découvre ici.
Ça me fait vraiment penser à l'épisode, je crois que c'était l'épisode 3 de Fais-tu Fred, que j'avais enregistré avec Gilles Brien, qui est météorologue, et qui me disait dedans que lui avait étudié à peu près tout ce qui se fait comme territoire sur la planète, sur un plan climatologique, évidemment, et que même s'il y avait de ci ou là des ressemblances et tout, nulle part, il avait réussi à retrouver un climat qui pouvait être comparable à celui du Québec, qui était en tout point absolument exceptionnel. C'est un peu ce qu'on retrouve lorsqu'on parcourt cette histoire absolument dingue de la préhistoire du Québec. On est tous Québécois, en fait, quoi.
Effectivement, exactement.
Parmi les incontournables d'un séjour touristique en terre québécoise, on va retrouver la visite du Belvédère sur le Mont-Royal, on va retrouver la visite des Laurentides de Charlevoix, tous ces paysages qui se sont formés à la préhistoire, mais qui ne ressemblent plus franchement à ce qu'ils étaient au moment de leur création. C'est en tout cas ce que j'en ai compris. Juste pour que les gens puissent visualiser quand ils vont venir, ou pour ceux qui sont là, est-ce que tu peux me parler un peu de la création du Mont-Royal? Je crois que c'est ce qu'on appelle les Montérégiennes, si j'ai bien compris.
Exact. Voilà.
Le Mont-Royal, qui est l'endroit, quand vous allez arriver à Montréal, vous allez tous y aller pour faire les photos. Sachez que les photos seront prises sur...
Le Mont-Royal, c'est-à-dire... les Montérégiennes, c'est une petite chaîne de montagnes. On dit montagnes, mais en réalité, ça ressemble parfois à des petites collines. Elles sont tout à fait magnifiques, sont très arrondies, sont très jolies, recouvertes de forêts. Certaines d'entre elles sont des endroits pour skier extraordinaires. C'est vraiment des montagnes auxquelles sont très attachés les Québécois. Pratiquement autour de chaque montagne, il y a les petits villages. C'est vraiment très typique de la vallée du Saint-Laurent. Ces collines-là, ces montagnes-là ont une origine absolument renversante. C'est qu'à un certain moment donné, à l'époque des dinosaures, en fait, le Québec, dans sa dérive, a passé au-dessus de ce qu'on appelle un point chaud. Ça, c'est un endroit où, périodiquement, le magma va être poussé vers le haut et va envahir la croûte terrestre et faire fondre les roches de la croûte terrestre, mais la poussée n'est jamais assez grande pour que ça donne naissance à un volcan. Donc, il n'y a jamais eu d'éruption volcanique. C'est simplement du magma qui a été poussé vers le haut, qui a fondu toutes les roches alentour, les roches ignées, sédimentaires et tout mélangé ensemble. Et puis après ça, ce point chaud-là va redescendre, se refroidir. Et puis, ça n'a jamais percé le sol préhistorique. Ça veut dire que les dinosaures n'ont pas vu, tout ce qu'ils ont vu en fait de ces intrusions-là, c'est possiblement des geysers qui étaient probablement causés par l'eau souterraine qui était chauffée ou surchauffée par cette poussée de magma, mais le magma lui-même n'a jamais percé le sol. Et puis ce point-là, donc ce point chaud-là, se réveille périodiquement de temps en temps, puis se rendort, ce qui fait que ça a formé des espèces d'intrusions de roches extrêmement dures, des roches magmatiques très, très, très dures, dans la croûte terrestre, puis dans les roches sédimentaires, mais jamais, jamais, comme je le répète, sans jamais donc percer le sol québécois.
Donc c'était une plaine.
Exactement. Et le point chaud, d'ailleurs, soit dit en passant, est toujours actif. Là, maintenant, il est au fond de l'océan Atlantique, au large de la Nouvelle-Angleterre, et il continue à se réveiller de temps en temps. Donc, on voit encore là, de satellites et puis en utilisant des radars, on voit que cette espèce de série de collines-là se poursuit au fond de l'océan. Et puis, bon, ce qui est arrivé après tout ça, c'est que, bon, les dinosaures sont disparus, la Terre est entrée dans un ère glaciaire absolument terrible, vraiment éprouvant pour la vie, et les glaciers ont avancé, reculé pendant des milliers d'années, rabotant le territoire québécois, arrachant et réduisant en poussière toutes les roches sédimentaires qui sont un peu plus molles que les roches magmatiques. Mais les collines montérégiennes, elles, donc, n'ont pas été détruites par les glaciers. C'est le sol autour qui a été arraché. Et si bien que maintenant, donc, ces espèces de réservoirs de roches dures-là qui jadis étaient situées sous le sol, bien, maintenant, elles dépassent du sol et elles sont devenues des montagnes ou des collines très, très, très dures. Et c'est ça qu'on appelle les montérégiennes, c'est-à-dire les collines là, qui traversent tout le Québec. En fait, ça commence au Mont d'Oka, qui est situé à l'ouest de Montréal, le Mont Royal, le plus connu d'entre tous, qui est en plein milieu de l'île de Montréal. Et puis, ça continue comme ça jusque, comme je vous disais, là, jusque dans l'océan Atlantique.
Les Laurentides, voilà, ah, au lieu de villégiature où les Montréalais, notamment, ont souvent des chalets, voyez-vous, c'est superbe d'ailleurs, les Laurentides, l'appareil plus vallonné, hein, parce que bon, les montérégiennes aujourd'hui, si vous venez et que vous allez, bah, par exemple, je sais pas moi, au Mont Saint-Bruno, bon, vous allez être sur de la plaine, hein, de l'autoroute bien plat, et puis tout d'un coup, vous allez entreapercevoir un mont, voilà, un peu sorti de nulle part, et mais rien autour, hein, voilà. Bon, quand on se déplace dans les Laurentides, là, on retrouve un petit peu plus nos marques. Quand on est en voiture, ça monte, ça descend, ça tourne. On est vraiment dans quelque chose de plus vallonné. Comment sais-tu donc qu'elles sont arrivées là, les Laurentides?
Bien, à l'origine, les Laurentides, ça fait partie d'un énorme bloc continental qu'on appelle le bouclier canadien, qui est une des parties originelles de la croûte terrestre. Donc, on parle de roches très, 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 très dures. Et le nord du Québec est vraiment intéressant parce qu'il n'a jamais été touché, en quelque sorte. Il est intact. Donc, c'est un sol qui est quand même assez plat. C'est comme un gros bloc de pierre qui date de l'origine de la planète. Mais le sud du Québec, c'est-à-dire juste au nord du fleuve Saint-Laurent, ça, c'est encore la même roche originelle, mais elle a été déformée. Elle a été complètement compressée lors d'un énorme choc continental qui a eu lieu entre ce qu'on appelle la Laurentie, qui est essentiellement l'Amérique du Nord, et les territoires, les continents du sud qui étaient tous alors regroupés ensemble et qu'on appelait le Gondwana. Donc, quand la Laurentie a frappé le Gondwana, tout le sud du Québec de cette époque-là, c'est-à-dire tout ce qui est au nord du fleuve Saint-Laurent, donc, a été compressé et c'est une roche extrêmement dure qui s'est retrouvée à remonter, puis ça a formé une chaîne de montagnes qui est tout à fait comparable à l'Himalaya actuel. Donc, ça, c'était probablement, au dire de certains scientifiques, ça aurait été la plus haute chaîne de montagnes de l'histoire de la planète. Mais évidemment, là, nous, on vit des millions et des millions et des millions d'années plus tard. Donc, ces chaînes de montagnes-là ont subi l'érosion des millénaires, la pluie, le vent, encore une fois, les glaciers qui les ont rabotés. Mais tout ça n'a pas été suffisant pour complètement les effacer. Donc, elles sont toujours là, les Laurentides. Évidemment, de nos jours, ce sont des mignons petits monts tout à fait arrondis, tout à fait superbes, couverts de forêts, de conifères également, principalement. C'est une région du Québec que tout le monde adore. C'est extraordinaire, le paradis des skieurs. Et donc, c'est tout ce qui reste de ces anciens monts himalayens préhistoriques. Mais quand même, c'est quand même impressionnant de penser que malgré tout ce que la Terre a pu leur lancer, n'est jamais arrivé à les effacer complètement.
Pas effacer complètement, mais quand même sérieusement raboter. Hein. L'Himalaya, ah ben oui. si je ne dis pas de bêtises, c'est au-dessus de 8000 mètres de haut. Là, on doit être à, je crois que le point culminant des Laurentides, c'est 1100, c'est ça?
Exact.
Ouais. Donc, au niveau du rabot, c'est... Bon, ça a pris le temps. Hein. Enfin, quand même, oui. Passer de 8000 à 1000, c'est quand même assez impressionnant. Autre site absolument magnifique et très prisé des touristes, c'est la région de Charlevoix. Alors, quand on était à Charlevoix, fallait toujours avoir un œil qui regardait le ciel quand même. Hein.
Oui, effectivement. Ben, encore aujourd'hui, Charlevoix, c'est une région vraiment particulière au Québec. C'est l'endroit où il y a le plus de tremblements de terre. C'est un endroit extrêmement actif. Et puis, on s'est longtemps demandé comment ça se fait, pourquoi cet endroit-là, il semble pas y avoir de mouvement tectonique particulier dans cette région-là. C'est un mystère vraiment renversant. Même à l'époque de la Nouvelle-France, les premiers colons français ont laissé des écrits pratiquement apocalyptiques qui décrivent un tremblement de terre en particulier qui a été absolument, qui les a terrorisés. On parle de failles qui s'ouvraient dans le sol, de clochers d'église qui sonnaient d'eux-mêmes, de fissures qui apparaissaient dans les murs de pierre, du fleuve Saint-Laurent qui est devenu blanc puis qui sentait le soufre pendant une semaine. Donc, toutes sortes d'histoires comme ça, absolument catastrophiques, au point où on lit ça maintenant puis on se demande s'il exagérait pas un peu, mais pourtant, non, il y a plusieurs témoins qui nous racontent exactement la même chose. Donc, c'est un endroit qui est très actif, puis on s'est longtemps demandé pourquoi. Ben maintenant, la réponse est sue. Et c'est un choc de météorites absolument gigantesque qui dépasse l'entendement. On parle d'une roche probablement de la taille du Mont Everest qui a frappé la Terre au Québec, donc, dans cette région-là qu'on appelle aujourd'hui Charlevoix, qui a littéralement liquéfié le sol sur contact en une fraction de seconde. La roche fondue a été projetée dans toutes les directions et s'est resolidifiée. Dans le milieu, cette roche fondue-là est revenue pour boucher le vide qui avait été créé dans le centre et a formé un ressac de roches gigantesques, des roches qui allaient, au moment de la formation de ce cratère-là, ça devait être des pics vertigineux. Le centre du cratère, maintenant, c'est une montagne, un mont qu'on appelle le mont des éboulements et qui porte vraiment bien son nom. Donc, toute cette région-là, en réalité, qui est superbe aujourd'hui, là, magnifique, c'est le paradis des peintres, le paradis des artistes, le paradis des amants de la nature, un endroit d'une quiétude paisible, superbe, absolument inspirant. C'est renversant de penser que son origine est absolument épouvantable, là. Un enfer sur Terre, une catastrophe innommable, un choc de météorites qui dépasse l'entendement et qui a possiblement pu contribuer à une extinction massive d'animaux à travers la planète. On a retrouvé des morceaux de Québec qui ont été projetés jusqu'en Écosse par cet impact-là. Et au Japon, on a vu que la chaîne alimentaire océanique s'est littéralement écroulée à la même époque du choc de la météorite. Donc, ça semble avoir été un cataclysme mondial qui a causé, qui a chamboulé la vie à travers la planète. C'est vraiment un événement incroyable. Et ce qui nous reste donc de cette catastrophe inimaginable aujourd'hui, c'est probablablement une des plus belles régions que possède le Québec.
Tu parles d'une catastrophe en particulier, mais dis-moi si je me trompe, mais la région de Charlevoix, on s'en est pris quelques autres dans la tronche des météorites.
Pas loin de Charlevoix, sur la côte nord, on a un cratère absolument magnifique qui s'appelle le cratère de Manicouagan, qui est surnommé l'œil du Québec. Si vos auditeurs veulent jeter un coup d'œil sur une carte du Québec, ils vont voir un étrange lac situé sur la côte nord qui semble avoir on dirait un anneau. Hein? Donc, c'est vraiment comme un cercle d'eau. Et puis ça, ben c'est un cratère magnifique, un des plus beaux sur Terre, qui est visible de l'espace tellement qu'il est énorme. C'est un cratère qui, c'est assez amusant, il a longtemps été complètement ignoré des gens. Personne ne savait qu'il existait jusqu'à temps que soit bâti ou construit plutôt sur la rivière qui est attenante un barrage hydroélectrique qui a fait donc monter le niveau d'eau pour former son réservoir. Et puis, ben, le réservoir a complètement inondé le pourtour du cratère pour former cet anneau-là qui est absolument parfait. Et puis, c'est là que tout le monde a regardé ça puis s'est dit, ben là, c'est pas naturel, ça se peut pas. Un anneau parfait comme ça dans la nature, c'est impossible. Et puis, ben là, en étudiant le sol, ils ont découvert que c'était un autre cratère absolument extraordinaire, vraiment bien préservé à part de ça, magnifique. On le surnomme l'œil du Québec.
L'œil du Québec. Et bien justement, puisqu'on est dans les inondations, parlons d'un autre facteur qui aujourd'hui, on va dire, régit un petit peu la vie québécoise, le Saint-Laurent. Voilà. Difficile d'imaginer le Québec sans le Saint-Laurent, mais la question est posée. Il a toujours été là, le Saint-Laurent, ou c'est tout neuf?
C'est tout neuf. C'est assez incroyable de penser ça, parce qu'effectivement, c'est l'artère du Québec. Le Québec entier tourne autour du fleuve Saint-Laurent, sauf tout respect pour nos amis autochtones du Nord qui, eux, s'en débrouillent très bien sans fleuve Saint-Laurent. Mais disons que l'histoire récente du Québec, le fleuve Saint-Laurent joue un rôle central dans toute notre histoire. Et pourtant, il est assez récent, c'est-à-dire que où il y a le fleuve présentement, il y a toujours une des plaines, ça a toujours été un endroit assez plat, mais le fait que ce soit traversé par un fleuve comme ça, ça date de la fin de la dernière glaciation, donc on parle tout au plus il y a 15 000 ans, ce qui peut sembler énorme, mais qui est très, 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 très court dans l'histoire de la planète. Et puis ce qui est arrivé, donc, c'est que les glaciers, en fondant, certains d'entre eux sont demeurés coincés au centre du continent et ont donné naissance à ce qu'on appelle les grands lacs, donc des lacs gigantesques qui sont situés au cœur de l'Amérique du Nord. Et puis, ben, toute cette eau-là débordait. Il fallait que ça coule à quelque part. Au début, ben, ça a coulé à travers tout le continent nord-américain dans ce qu'on appelle aujourd'hui le fleuve Mississippi pour couler comme ça jusque dans le golfe du Mexique. À l'époque, il y a un énorme mur de glace encore qui couvrait le Québec et qui empêchait l'eau de couler vers l'océan Atlantique, donc de prendre le chemin.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Plus court. Mais lentement, pas vite, à mesure que le continent se relevait et que les glaciers reculaient, ben, à un moment donné, l'eau a trouvé un chemin plus court. Et puis ça, ben, ça a été à travers la plaine du Saint-Laurent. Et c'est ça qui a donné naissance au fleuve. Au début, en fait, c'était un énorme lac, une mer intérieure qu'on appelle la mer de Champlain, qui lentement, pas vite, donc, s'est écoulée dans l'océan, puis a fini par donner le profil géographique qu'on observe aujourd'hui dans le sud du Québec.
Tu viens de parler de du moment où il y avait cet énorme glacier qui recouvrait une grosse partie du Québec. Juste pour avoir une idée, c'est le type de glacier qui faisait combien d'épaisseur?
On parle d'environ 1 kilomètre d'épaisseur. Donc, c'est absolument inimaginable, encore une fois, c'est renversant. C'est tellement de glace, c'était si lourd que tout le continent nord-américain s'est enfoncé dans la croûte terrestre. Et on n'a pas encore fini, 15 000 ans plus tard, on n'a pas fini de remonter. Donc, le continent continue encore au moment où on se parle de remonter. Le Québec remonte lentement, pas vite, un petit peu. Tout petit peu, très lentement, mais n'a pas fini encore, n'a pas retrouvé sa position initiale.
1 kilomètre de glace. Moi, ça me semble complètement fou. J'ai eu la chance quand j'étais tout petit. Je dis vraiment la chance parce que malheureusement, c'est quelque chose que mes enfants ne pourront pas faire compte tenu du réchauffement climatique. Je suis allé marcher sur la mer de glace à Chamonix dans les Alpes en France. Enfin, quand je dis marcher, je suis surtout allé me ramasser la tronche parce que j'avais beaucoup de mal à marcher. Mais c'était déjà très impressionnant. Vraiment très impressionnant. Et il devait quoi? Il devait rester quoi? Une dizaine de mètres d'épaisseur à l'époque? Alors, un kilomètre d'épaisseur de glace. Oui. C'est juste absolument monstrueux. Je reviens à mon arche narrative touristique. Les visiteurs de passage à Montréal vont aussi proprement saturer la mémoire de leur téléphone portable en prenant des photos d'écureuils. S'ils s'aventurent un tout petit peu plus loin, ils vont croiser des marmottes, des caribous. On va juste leur souhaiter d'éviter de croiser le passage d'une moufette. C'est mieux. S'ils avaient eu leur téléphone portable à l'époque et qu'ils avaient été là, au cours de toute cette immensité d'histoire, quel type d'animaux ils auraient rencontré au Québec?
Ben, ceux qui m'impressionnent beaucoup, c'est des animaux qui vivaient à l'époque où essentiellement la vie sur Terre, tout ce qu'il y avait sur Terre, c'était les premières plantes qui lentement, pas vite, commençaient à coloniser le territoire. Mais le feu de l'action était vraiment dans les océans. Et puis, on parle de scorpions géants, donc qui vivaient sous l'eau. Donc, on en a eu au Québec de ça qui sont assez impressionnants. On retrouve leurs traces fossiles et on retrouve également leurs carapaces fossiles. Donc ça, on parle d'arthropodes, donc les animaux de la famille des insectes et des homards et des crabes. On parle d'un espèce de gros scorpion qui avait probablement la taille à peu près d'un crocodile. Donc ça s'est déjà baladé dans le sud du Québec. Un peu plus tard, ben, il y a les fameux poissons à nageoires osseuses dont j'ai déjà parlé, qui devaient être absolument incroyables. Et, imaginez vous promener sur le bord de la mer et puis voir des poissons sortir la tête de l'eau puis vous observer. Ça devait être absolument incroyable comme spectacle. Malheureusement, ce sont des animaux qui sont disparus depuis très longtemps. Mais en fait, on dit disparus, mais en réalité, ils ont juste évolué. Ce sont nous maintenant qui sommes leurs descendants. À une autre époque, ben là, on a eu droit à l'époque des dinosaures. Malheureusement, au Québec, pour l'instant, aucun fossile de dinosaure n'a été retrouvé parce que, comme j'expliquais plus tôt, le sol a été tellement anéanti puis arraché par les glaciers que toutes les roches de l'époque des dinosaures ont été pulvérisées. Toutefois, récemment, on a trouvé un site dans le nord du Québec, tout près de la frontière avec le Labrador, où il y a des fossiles de l'époque du Crétacé, donc la dernière ère des dinosaures. Alors, on n'a pas trouvé de fossiles de dinosaures encore à cet endroit-là, mais on a trouvé des fossiles d'insectes, on a trouvé des fossiles de feuilles et de plantes. Donc, c'est pas impossible qu'éventuellement on finisse par mettre la main sur un dinosaure québécois. Mais bref, tout ça pour dire qu'on peut pas dire avec certitude quels animaux vivaient ici à l'époque des dinosaures, mais on peut le deviner d'une certaine façon. On peut le déduire en regardant quels étaient les animaux qui vivaient dans les territoires limitrophes. Et puis, comme il n'y avait pas vraiment de frontières naturelles qui auraient pu les empêcher de venir ici et que les écosystèmes et puis les climats étaient très semblables, il n'y a pas de raison de croire que ces animaux-là ne s'aventuraient pas au Québec. On a quand même une idée des animaux qui pouvaient se retrouver ici. Donc, mon fameux stégosaure qui m'avait tant fasciné quand j'étais en quatrième année, ben, j'ai été ravi d'apprendre des années après qu'il a été retrouvé tout près d'ici aux États-Unis et également en Espagne. Donc, il a fallu qu'il passe par un territoire entre les deux à un moment donné. Puis, ce territoire-là, il y a fort à parier que c'était le Québec. Des allosaures, donc des énormes dinosaures carnivores qui s'attaquaient justement aux stégosaures. On le sait avec certitude maintenant parce qu'on a trouvé un fossile d'allosaure qui avait une blessure au bassin. Et cette blessure-là dans son os a exactement la forme d'une des pics qu'on retrouve au bout de la queue d'un stégosaure. Donc, il y a fort à parier, encore une fois, que ces deux animaux-là se sont affrontés puis c'est pas l'allosaure qui en est sorti gagnant, malgré le fait que c'était lui le carnivore. Donc, des dinosaures gigantesques de toutes les tailles, il y en avait des petits, il y en avait des gros, on en a eu vraiment pour tous les goûts. Et puis, après la chute de la météorite au Mexique, qui a causé l'extinction de tous les dinosaures à part les oiseaux, parce que oui, les oiseaux sont des dinosaures, c'est les seuls survivants de cette grande famille animale-là. Après ça, ben là, on a eu droit à l'ère des mammifères et puis là, ben les créatures qui se sont qui ont fréquenté notre territoire, encore une fois, c'est complètement renversant de voir ça. Entre autres, il y en a un qui me fascine complètement, c'est le paresseux géant. Donc, le paresseux, évidemment, nos auditeurs savent ce que c'est. C'est des sympathiques petits mammifères qui habituellement, ben, ils vivent dans la forêt amazonienne. Ils se pendent la tête en bas après les branches des arbres. Ils portent vraiment bien leur nom parce qu'ils sont extrêmement paresseux, très peu actifs. Je pense qu'ils dorment pratiquement 85 % du temps, mais qui sont hyper sympathiques, vraiment. Ben, il y a eu une espèce de paresseux géant, gigantesque, là, de la taille d'un camion, qui semblait être beaucoup plus actif que ses cousins modernes, et puis qui se promenait comme une espèce de gros balourd, là, probablement qui se promenait, puis avec ses griffes, il baissait les branches des arbres pour manger les feuilles sur les branches, et on a retrouvé des fossiles de paresseux géants à travers toute l'Amérique du Nord. Donc, c'est pratiquement assuré qu'il y en a eu au Québec également. Fait que c'est quand même incroyable de penser qu'un animal comme ça puisse se balader dans des endroits qu'on fréquente de nos jours, puis qu'on ne pourrait pas imaginer qu'il a déjà vécu à cet endroit-là.
Oui, parce que c'est ça, hein, tous ces endroits-là, toute cette histoire dont on parle, c'est sous nos pieds.
Exact.
C'est les voilà, dès qu'on se balade, dès qu'on bouge... Si on pouvait faire un saut dans le temps sans bouger, on les rencontrerait. Bon, il y a des fois, on se pèlerait très certainement parce que franchement, il faudrait quelques couches de couverture, mais c'est assez impressionnant. Tu viens de parler à plusieurs reprises, tu as fait mention à la végétation disant des fossiles de feuilles.
Ouais. Alors,
juste pour que moi, je comprenne bien, c'est comment ça donc qu'on peut avoir des fossiles de feuilles? Parce que, alors, des fossiles avec des os, éventuellement avec des cartilages, tout ça, je comprends un petit peu le principe. Enfin, les feuilles, a priori, c'est quand même quelque chose qui se dissout en moins de deux. Comment est-ce qu'on peut encore avoir des traces de feuilles des millions d'années plus tard?
Ben, c'est très rare, effectivement, parce que comme tu le dis si bien, des feuilles, c'est pas quelque chose qui va survivre très longtemps. Mais de temps en temps, il va se passer quelque chose d'exceptionnel. Des feuilles, par exemple, vont se retrouver ensevelies sous une couche de sédiments, souvent au fond d'un lac ou au fond d'un plan d'eau quelconque. Un endroit, donc, où l'oxygène est pratiquement complètement absente, où les insectes et les bactéries n'arrivent pas à s'infiltrer. Et puis là, ben, notre feuille, donc, va être comprimée, compressée entre des couches de sédiments. Elle ne va pas se décomposer, compte tenu du fait que l'oxygène n'est pas présent. Les sédiments qui l'entourent vont se solidifier, devenir de la roche. Et puis, lentement, pas vite, évidemment, au cours des millions d'années, il ne restera plus rien de notre feuille originale, mais sa forme, ses veinures, dans tous leurs détails les plus exquis, vont se retrouver étampées dans la pierre. Et c'est ça qu'on retrouve, en fait. C'est la trace de la feuille dans les sédiments qui l'ont entourée lorsqu'elle est tombée. Donc, c'est grâce à ce phénomène-là, en fait, qu'on retrouve des fossiles extraordinaires. On a retrouvé des fossiles de dinosaures sur lesquels sont encore visibles les traces de la peau, par exemple. Parfois même les muscles, les nerfs, les griffes, les plumes. Tout ça, c'est grâce à des situations donc où l'animal ou l'être vivant donc se retrouve enseveli très rapidement dans une couche de sédiments où il n'y a pratiquement pas d'oxygène, et c'est ce qui fait en sorte que la décomposition est tellement ralentie que les sédiments ont le temps donc d'imprimer la forme de cet être vivant avant sa disparition.
Dans l'intro, je parlais de champignons.
Oh, ouais.
des petits champignons, histoire de faire une petite poêlée, quoi. 8 mètres de haut,
ouais.
Le champignon. Comment c'est possible un truc pareil?
Ben ça, c'est fascinant, effectivement. On a retrouvé ça en Gaspésie à l'origine. Mais depuis, ils ont été retrouvés un peu partout, si je me souviens bien, même au Moyen-Orient. Ils en ont retrouvé sous forme fossile, évidemment. C'est pas des plantes, mais ce sont des champignons, donc qui n'existent plus. Au départ, on a pensé que c'était des troncs d'arbres, sauf qu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait pas de forêt, il n'y avait pas de... Les plantes, les végétaux qui avaient commencé à occuper le sol étaient essentiellement des mousses, des lichens, c'était minuscule. Et puis là, on retrouve des espèces de troncs gigantesques dont la taille peut parfois être aussi grosse qu'une machine à laver et qui peut mesurer 7, 8, 10 mètres de haut. Donc, on s'est vraiment posé la question, qu'est-ce que c'est ça? En étudiant ces fossiles-là, on a réalisé que c'était pas du bois. Donc, c'était quelque chose de spongieux. Et puis, force a été de constater que c'était des créatures qui s'apparentent à nos champignons actuels. qu'est-ce qu'ils faisaient là? Ben, en réalité, c'est des créatures à qui on doit vraiment beaucoup. Parce qu'à cette époque-là, la Terre était essentiellement désertique. Donc, les plantes avaient à peine commencé à surgir de la mer et de l'océan pour venir coloniser les côtes, mais c'était une végétation très timide, toute petite, qui s'éloignait jamais beaucoup des plans d'eau. Et puis là, ben, ces champignons-là, eux, ont commencé à coloniser le territoire en premier parce qu'ils avaient la capacité, donc, d'extraire les minéraux de la pierre, de la roche. Et puis, ils pulvérisaient la roche, donc, pour aller chercher les minéraux nutritifs dont ils avaient besoin. Et ce faisant, puis en se reproduisant, puis en mourant, puis avec leurs énormes cadavres qui se décomposaient, bien, ils ont commencé à former une espèce de couche de terre fertile qui a pu permettre aux plantes de s'implanter puis de prendre de plus en plus de territoire puis d'envahir éventuellement la planète entière. Ils ont également servi probablement de refuge aux tout premiers insectes terrestres qui avaient quitté eux aussi la mer pour venir se balader sur la terre ferme. Donc, on doit vraiment beaucoup à ces géants-là qui sont disparus depuis très, très, très longtemps. Mais sans eux, c'est probablement que la nature aurait éventuellement réussi à se répandre, mais clairement beaucoup moins rapidement que ce qui s'est passé.
Beaucoup moins rapidement, étant toujours à ramener sur l'échelle de temps préhistorique, parce que quand même, c'est pas pour demain non plus. Tu parlais de cette couche qui a permis aux végétaux ensuite, grâce aux champignons, donc aux végétaux, de pousser plus vite. Je voudrais qu'on termine l'émission en parlant des arbres, parce que, à ce que j'ai compris en lisant le livre, c'est que peut-être alors pas en remontant à 4 milliards 600 millions d'années, puisque là, il y avait rien. Mais quand on parle malgré tout de préhistoire, de millions d'années, peut-être le relief, le paysage qu'on peut observer aujourd'hui et qui est le plus fidèle à ce qui a été dans cette réalité-là, ce sont les arbres, et notamment les arbres du Québec, qui sont très similaires en fait à ce qui se faisait aux premiers arbres qui sont arrivés.
Certains d'entre eux, oui, on trouve encore au Québec des petites plantes. Il y en a d'ailleurs qui poussent sur le côté de ma maison. La plupart des gens pensent que c'est des espèces de mauvaises herbes. Ils ont toutes sortes de surnoms au Québec. On les appelle queue de renard. C'est des petites plantes qui ont l'air complètement insignifiantes, mais en réalité, ce sont des très, très, très... En fait, c'est pas qu'elles sont anciennes elles-mêmes, mais elles appartiennent à une très, très ancienne famille qui existe depuis pratiquement les tout débuts de la végétation sur Terre. Et puis, ces petites plantes-là, comme j'en parle dans le livre, c'est des plantes qu'on retrouve un peu partout. Les dinosaures, certains dinosaures s'en nourrissaient. Et puis, ils poussent encore un peu partout au Québec. Elles sont là, on leur porte plus ou moins d'attention, mais elles sont là. Une autre plante très ancienne qui existe encore au Québec et qui est magnifique, encore une fois, j'en ai dans ma cour et je les adore, c'est les fougères. Mais les fougères, évidemment, maintenant, c'est pas uniquement au Québec, elles sont présentes un peu partout. Mais ça aussi, ce sont des plantes très, 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 très anciennes. Imaginez, elles se reproduisent avec des spores. Donc ça, c'est une forme de reproduction tellement antique, c'est incroyable de penser qu'il y a encore des plantes qui se reproduisent de cette façon-là. Et pourtant, c'est le cas. Donc, elles se reproduisent pratiquement comme des champignons, tellement elles sont anciennes. Donc, les fougères au Québec, il y en a depuis les tout débuts de la végétation. Par contre, les fougères préhistoriques, certaines d'entre elles, c'était des fougères arboricoles, c'est-à-dire que contrairement à nos petites fougères québécoises modernes, je dis petites, certaines sont quand même assez grosses, mais bref, elles restent toujours près du sol. Il faut dire que les mois d'été sont assez courts au Québec, alors elles n'ont pas vraiment le temps là, de grandir plus que ça. Voilà, donc il faut vraiment profiter au maximum de l'été pendant qu'il passe parce qu'il est assez court. Mais les fougères préhistoriques, elles, n'avaient pas à endurer d'hiver. Donc, elles poussaient et poussaient en hauteur. Les tiges des feuilles précédentes durcissaient et formaient une espèce de tronc. Et puis, on se retrouvait avec des arbres. Ça ressemblait un peu à des palmiers, mais en regardant les feuilles, en réalité, c'était pas des palmes, là, c'était vraiment des feuilles de fougères. Et puis ça, ces plantes-là, ça existe encore, pas au Québec. J'en ai vu en Nouvelle-Zélande. qui est un endroit absolument magnifique. Les forêts de la Nouvelle-Zélande le font vraiment penser aux forêts préhistoriques du Québec à l'époque où les dinosaures étaient les maîtres du monde. Si on veut avoir une bonne idée d'à quoi ressemblait le Québec, par exemple, au Crétacé, ben la Nouvelle-Zélande, c'est l'endroit à voir. Là, si on fait une petite recherche sur Google, vous allez voir facilement de quoi je parle. Alors, donc, des fougères comme ça, ça existe encore dans des coins assez reculés du globe, mais au Québec, à une certaine époque, nos forêts en étaient pratiquement entièrement constituées, là. Donc, oui, il y a beaucoup de plantes. Les premiers conifères, certains des plus anciennes traces de conifères, c'est au Québec et dans les Maritimes qu'on les a retrouvées. Ce qui semble indiquer que les conifères sont présents sur notre territoire depuis très, très, très longtemps. Et évidemment, encore aujourd'hui, c'est le cas, surtout quand on s'éloigne un peu de la frontière du sud, où là, la forêt va être plutôt feuillue ou mixte. Le moindrement qu'on commence à monter vers le nord ou encore à monter en altitude, on va voir rapidement les conifères prendre le dessus au Québec. Bien, ces plantes-là, de toute évidence, ce ne sont pas des nouvelles arrivées. Elles sont là depuis très, 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 très longtemps également.
Tu serais capable de dater à peu près?
L'arrivée des conifères?
Ouais, l'arrivée des conifères, l'arrivée de ces paysages de forêt un peu tels qu'on les connaît aujourd'hui. Imagine, tu me jettes dans une forêt préhistorique, par je ne sais quelle magie, mais tu me jettes dans une forêt préhistorique et je me rends compte de rien parce que j'ai l'impression d'être dans une forêt à peu près d'aujourd'hui. Tu pourrais me faire faire un bond de combien de temps?
Pour trouver une forêt qui ressemble à ce qui existe aujourd'hui, mais évidemment, il y aurait des différences, là, mais disons une forêt où il y a des feuillus qui sont semblables aux nôtres, des conifères qui sont semblables aux nôtres, les premières plantes à fleurs qui existent toujours, ben il faut reculer jusqu'au Crétacé, c'est-à-dire la dernière période où ont vécu les dinosaures. Donc, on parle d'une période qui a fini il y a à peu près 66 millions d'années. Donc ça, c'est la première fois, je dirais, là, qu'on voit une forêt qui est reconnaissable, qui pousse ici. Si on remonte plus loin dans le temps, là, on a l'impression d'être dans un autre pays. Puis si on remonte encore plus loin, ben là, on a l'impression d'être sur une autre planète.
C'est complètement fou. C'est vrai, oui. Que 66 millions d'années, c'est à la fois énorme. Puis à l'échelle de tout ce dont on se parle depuis tout à l'heure, ben, c'est globalement pas tant que ça.
Ah, c'est vraiment pas tant que ça, parce que en réalité, si on prend les dinosaures, par exemple, ils ont vécu pendant, bon, grosso modo, à peu près quoi, 150 millions d'années, 200 millions d'années. Donc, leur disparition date d'il y a 66 millions d'années. Ça veut dire que la distance de temps qui nous sépare, nous, d'un T-Rex, bien, c'est la moitié du temps de ce qui sépare le T-Rex de ses premiers ancêtres à lui, les premiers dinosaures. Donc, ça fait pas si longtemps que ça, en réalité, dans l'histoire de la planète.
Eh bien, justement, puisque tu parles de T-Rex, ça va être mon avant-dernière question. Allez, je t'explique. Moi, je viens du marketing et de la pub. Et quand je vois des films sur le marketing et la pub, bon, j'avoue que j'accroche pas. Hein, je trouve ça carrément caricatural. Même parfois, je suis légèrement vexé. Quand j'avais un ami en France, un voisin qui lui était flic, et quand il me parlait des séries policières ou des films policiers, il ressentait à peu près la même chose. C'était pas sa réalité. Ouais. Le passionné de préhistoire que tu es, il réagit comment quand il voit le dernier opus de Jurassic Park?
Il va même pas le voir.
Je crois que c'est clair.
Non, j'ai vu les autres parce que je me disais, bon, je peux pas les voir quand même, ça n'a pas de sens. Mais là, honnêtement, je suis écœuré au point où le dernier, pour moi, c'est fini. Là. Je sais que j'en retirerai aucun plaisir, donc j'ai décidé de pas le voir. Mais j'ai vu les précédents. Le premier film Jurassic Park qui est sorti, je dois avouer que bon, il y avait des inexactitudes assez extraordinaires, mais en même temps, c'était tellement excitant de voir ces animaux-là prendre vie à l'écran, puis bouger, puis hurler, puis courir, que, bon, malgré les inexactitudes, là, je me disais, OK, c'est un peu mon rêve d'enfant qui prend vie devant mes yeux. Donc là, j'ai quand même eu du plaisir avec le premier, faut bien l'admettre. Mais là, lentement, pas vite, disons que la qualité des scénarios va en baisse, l'exactitude scientifique également. Là, personnellement, moi, je suis capable. Là. J'ai vraiment atteint ma limite. Donc, malheureusement, je ne serai pas présent au cinéma pour celui-là.
Je n'en puis plus. Bon, puisqu'il ne faut pas aller au cinéma pour se renseigner sur la préhistoire, où est-ce qu'on peut aller au Québec? J'ai cru comprendre qu'il y a des sites, il y a des musées, il y a même des endroits complètement incongrus. Se balader simplement à Québec, regarder les fortifications et juste poser sa main sur la pierre. Déjà, c'est une visite préhistorique. Est-ce que tu peux me donner les quelques endroits qu'il faut faire pour connaître ce Québec préhistorique?
Ben, c'est ça qui est fascinant. Le Québec, en réalité, c'est un espèce d'énorme musée de la préhistoire à ciel ouvert. Donc, mais si on veut aller voir particulièrement des musées, je dirais que le Saint Graal, dans ce domaine-là, l'endroit qui est absolument extraordinaire, pour moi, c'est un pèlerinage à aller là. C'est vraiment Miguachan, en Gaspésie. C'est le fameux site où on retrouve les fossiles de ces poissons à nageoires osseuses, donc qui sont nos ancêtres. Et puis, ces fossiles-là sont tellement bien préservés, c'est renversant. On voit encore les nageoires, on voit les écailles. Dans certains cas, on peut même voir le contenu de l'estomac, donc ce que l'animal a mangé avant de mourir. On voit ses dents. C'est incroyable. On dirait, le poisson que j'ai mangé pour souper hier, il est moins bien préservé dans mon compost que ce poisson-là qui vivait il y a 350 millions d'années. C'est incroyable voir ça. En Abitibi, il y a un super beau musée qui s'appelle le Fossilarium que j'ai malheureusement pas eu le plaisir de voir encore, mais j'en ai entendu beaucoup de bien. À Montréal, il y a un tout petit musée qui est attenant à l'Université McGill qui s'appelle le musée Red Pat, où il y a des fossiles d'animaux préhistoriques, pas exclusivement québécois, un peu partout dans le monde. Et puis, ils ont vraiment une petite collection, mais une belle collection. Ça vaut la peine d'aller voir ça. Et puis, à part de ça, ben, comme on l'a mentionné, dans certains édifices québécois, on peut encore voir, donc dans les murs des édifices, entre autres dans certains quartiers de Montréal en particulier, on peut voir les fossiles dans les pierres qui forment les murs des édifices. Donc, on peut les voir. C'est à l'extérieur, c'est dans le mur de l'édifice. On voit des coquillages et puis toutes sortes de créatures qui vivaient ici dans le fond d'un océan préhistorique il y a 400, 450 millions d'années. C'est vraiment impressionnant de voir ça.
Patrick, je te remercie énormément pour ce voyage dans le Jurassique Québec. C'est vertigineux, passionnant et vertigineux. Je rappelle que ton livre La Préhistoire du Québec est paru aux éditions Fides, que tu as 6 déclinaisons en bande dessinée, alors qui sont super bien pour les mômes et pour les adultes aussi. Je pense à moi. Tu viens juste de sortir le 6e. Il y en a d'autres en préparation ou t'as bouclé la boucle?
La série La Préhistoire du Québec, pour l'instant, on sent qu'on a fait le tour, mais l'engouement est tel qu'on prépare un autre album, donc qui serait un peu le 7e, mais qui ne sera pas intitulé La Préhistoire du Québec. Parce que là, on veut vraiment élargir à la préhistoire en général. Donc, il y en a un 7e bouquin qui devrait sortir au printemps 2023 et qui va s'intéresser à l'évolution humaine.
Bon, en tout cas, je trouve que tu as quand même trouvé un bon filon parce qu'il y a plein de gens qui écrivent des bouquins ou des thèses sur, 2-3 semaines dans l'histoire de l'humanité. Toi, tu as choisi une tranche de 4 milliards, 600 millions d'années. Normalement, tu as de quoi faire une belle bibliothèque avec tout ça. Patrick, c'était un vrai bonheur, un véritable plaisir. Je te remercie énormément. Je mets toutes les coordonnées et tous les liens vers les livres en commentaire de ce balado et sur le site, comme je le fais d'habitude.
Merci à toi pour ton invitation puis ton intérêt. Ça a été très, très agréable de discuter avec toi, mon cher.
Franchement...
Et comme je t'ai dit en privé, encore une fois, chapeau pour ton nom de famille, qui est le nom de famille le plus extraordinaire que j'ai entendu de ma vie. Je suis jaloux, je le veux. Pourrais-tu m'adopter pour que je sois Patrick Lhomme?
Écoute, moi, je suis pas contre. Tu m'autoriseras quand même à demander l'avis à mes frangins d'abord. Mais franchement, je comprends que ça soit quelque chose d'émouvant pour quelqu'un qui, comme toi, s'intéresse depuis tellement longtemps à l'histoire de l'homme, à l'histoire de l'humanité. Ça serait un bonheur de t'accueillir dans la famille, mon cher Patrick.
Ben merci, c'est très gentil. Je suis très touché.
À bientôt. Ciao.
Bye-bye.
Et voilà. Fais-tu frette, c'est fini pour aujourd'hui.
Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo, vous avez vraiment toute mon admiration. Mais bon, c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu. Ou que vous êtes alors complètement maso. Bon, par défaut, j'opte quand même pour la première hypothèse. On va dire que c'est mon côté optimiste. Alors s'il vous plaît, rendez-moi service. Partagez ce podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et surtout, surtout, donnez-lui une note. Alors juste pour info, même si ce programme reste évidemment très perfectible, inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5. Au royaume d'Apple et consorts, il n'y a que le 5 sur 5 qui compte. Eh oui, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Alors je compte sur vous. Pour le reste, vous trouverez tous les liens, les références vers les livres, les spectacles, les programmes et que sais-je dont on a pu parler au cours de cette émission et même ceux dont on n'a pas parlé mais qui me semblent intéressants. Tout ça, vous le trouverez dans le descriptif, dans les commentaires de ce podcast ou bien alors sur notre site internet faitufrette.com. Sur ce même site, vous avez d'ores et déjà la possibilité de vous inscrire à l'indispensable newsletter hebdomadaire que nous vous préparons et qui sera lancée très prochainement. Et j'y annoncerai les prochaines émissions et partagerai avec vous des articles, des infos, des bons plans qui pourraient bien nourrir votre curiosité à propos du Québec. Enfin justement, puisque vous êtes curieux, je suis sûr que vous avez des questions, des suggestions, que vous aimeriez qu'on traite tel ou tel sujet. Eh bien, je ne demande qu'à vous lire. Envoyez-moi un courriel. Oui, j'ai bien dit courriel. Envoyez-moi un courriel à l'adresse suivante. Faitufrette, en un seul mot, tout attaché, sans espace, sans tirer ou quoi que ce soit. Donc, faitufrette. À commercial. Ah oui, j'ai oublié aussi. Ici, on ne dit pas at ou arrobase, on dit à commercial. gmail.com. Bah, j'avoue que c'était pas très clair tout ça. On récapépète depuis le début, vous allez voir, c'est très simple. Faitufrette, FAISTUFRE2TE, à commercial, gmail.com. Pas compliqué. Vous vous souvenez qu'au tout début de cette émission, je vous ai dit qu'au Québec, on ne disait pas bonjour, mais bon matin. Et pour cause, car ici, pour se dire au revoir, on se souhaite de passer un bon jour. Alors bonjour à tous et à tantôt.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.